Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. C'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui. Un week-end un petit peu particulier, on le voit parce qu'il y a pas mal de trous dans nos rangs. Mais il y a ce genre de week-end, il y en a quelques-uns dans l'année comme ça, où on pourrait faire 5 ou 6 choses différentes. Vous connaissez ce genre de week-end ? Il y avait des courses de tous les côtés. Là, on pouvait courir, faire du vélo. Il y a le Gospel Air à Avanche, où on a notre chorale qui est très active hier et aujourd'hui. On pense à eux, on prie pour eux. Corinne me disait encore vendredi, oh combien elle était surprise parce qu'ils savent même pas, les organisateurs ne savent pas ce qu'ils vont vraiment chanter, hein. Mais ils leur ont donné la grande scène. Enfin, ça leur mettait même une petite pression. Puis elle disait, mais c'est fou parce qu'on prie pour des choses, puis d'un coup, quand c'est là, on est presque surpris. Hein? Ça vous arrive aussi, je pense. Alors, on veut vraiment aussi penser à eux dans la prière, les encourager toute cette équipe. Et puis, je voulais vous raconter ça parce que hier, on a aussi été. Il y avait nos enfants qui faisaient une petite course. Et puis, j'ai trouvé chou l'attitude de mon dernier qui faisait une course pour. Ça s'appelle les poussins, donc c'est vraiment les années 2015 à plus haut, puis non, 2014 à plus haut. Donc lui, il est 2016, donc il n'était vraiment pas dans les favoris, vous imaginez. Vraiment le petit derrière sa ligne. Puis il était comme ça, il était prêt. Puis ça m'a fait tellement rire. Je dis, waouh, ok, c'est bon, ça, c'est le caractère que j'ai envie de voir chez nous aussi, les chrétiens, là, qu'on soit prêt au départ, qu'on soit à fond. Puis je lui ai dit. Tu sais ce que tu dois faire, parce qu'on avait même souci qu'il ne sache pas le parcours, enfin qu'il se perde, hein, il court tout seul, là, on s'est dit comment il va faire. Et puis je lui ai dit, tu sais ce que tu dois faire, moi je voulais dire, tu dois au moins courir puis suivre les gens. Et puis il me fait, dépasser. Alors dans les faits, c'est plutôt lui qui s'est fait dépasser, vous imaginez. Mais il était sûr d'arriver en tête en tout cas. Et puis il y a ce verset que j'aime beaucoup où Paul dit hein, « Courez la course de manière à remporter le prix ». Puis c'est toujours pour moi, c'est toujours une belle image de dire ben, « Il a couru de manière à remporter le prix ». Bien sûr, il n'a pas gagné la course, mais il était au bout. Et je crois qu'on est appelé à cela, à se donner dans cette course qui est pas un sprint, hein, c'est un marathon, la vie chrétienne. Super, bon. Alors, on va continuer ce matin notre série des paroles aux actes. Et puis, je vais redonner un tout petit peu la raison, le but de cette série. J'espère que vous êtes encouragés, j'espère que ça vous met un peu à l'action ou au défi. Est-ce que ça vous défie un petit peu cette série quand même ? Bon, ouais. Bon, ben, en fait, moi, je ne peux pas vous défier plus, hein. Le défi, ça va être de vous mettre à l'action, d'accord ? Donc, si vous vous mettez à l'action, vous allez être vraiment défié. Et je pense qu'encore ce matin, on va y tendre. Alors, au travers de cette série, nous désirons être ensemble des témoins qui attestent encore aujourd'hui dans ce monde, dans cette ville, dans cette société, que Jésus est vivant. Et cela par nos actions, par l'œuvre de Jésus dans nos vies. Nous sommes appelés à être des témoins et j'avais déjà expliquer cela dans l'introduction à cette série. Passer d'une vie spirituelle, je dirais théorique, une vie spirituelle parfois assez intellectualisée, ritualisée, à une vie spirituelle pratique, concrète, qui s'incarne dans la vie quotidienne, c'est vraiment un enjeu qui est majeur. Et je peux vous dire que l'ennemi préfère beaucoup des petits chrétiens avec de bonnes théories, que des chrétiens qui mettent en pratique ce qu'ils ont compris, des chrétiens qui vivent par la foi, qui expérimentent une réelle relation avec Jésus et qui ont un impact autour d'eux. Et moi, ce matin, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de lui faire plaisir à celui-là. Vous êtes d'accord avec ça ? Amen. On veut pas être ces bons petits chrétiens gentils qui font pas de bruit, mais on veut le déranger aussi, lui. Ah, ça nous défie. Je relisais en préparant ce message des notes de Jossi Chaco, fondateur d'Empart, qui a dit ceci, on confond la maintenance et la mission. Il dit ensuite, la maintenance, c'est l'étude biblique, c'est la louange, c'est l'encouragement, c'est la communion qui va nous permettre de faire la mission. On n'achète pas une voiture pour faire juste de la maintenance. Elle lui disait, l'église, elle est devenue un peu comme une voiture de collection. Une fois par semaine, on la démarre, on fait un petit tour au club, là, elle est toute belle, toute brillante, tout ça, on fait un petit tour, puis on la remet au garage. Et on l'entretient parfaitement. Il dit, mais c'est pas pour ça qu'on est sur Terre. Si on ne fait pas la mission, on n'a pas besoin de la maintenance, en fait. Si on ne fait pas la mission, on n'a pas besoin de la maintenance. Si on ne fait pas la mission, pourquoi se retrouver ici? Alors bien sûr, on célèbre Jésus, ok. Mais pourquoi s'encourager? Pourquoi chercher à comprendre la parole de Dieu? Pourquoi être connecté à Dieu si on ne redonne pas? Si on ne va pas? Si on n'agit pas? Et il dit encore quelque chose qui m'a pas mal impacté. Il dit, il faut mesurer le succès de l'Église, non sur la maintenance, mais sur la mission. Puis c'est vrai que souvent, on est dans un mode où on regarde la qualité d'une église, comment elle va à ce qui se passe le dimanche. Une bonne louange, une bonne prédication, les gens sont sympas, bonne communion, ça c'est une bonne église. Vous êtes d'accord avec ça? C'est comme ça, hein? Puis je peux dire qu'on a le choix aujourd'hui, hein? Vous pouvez aller plein d'endroits, vous goûter, puis tester. Si on renversait un peu les choses. Là, ça me défie moi. C'est vrai, hein. Moi j'ai envie que vous soyez confortable, j'ai envie que vous soyez content d'être là. J'ai envie que la prédication soit bonne, bien sûr. Mais ça me défie, ça nous défie. C'est déstabilisant. Passer de la parole aux actes, c'est plein d'enjeux, c'est vrai. Mais c'est à cela qu'on est appelé. Ne désirons pas seulement passer aux actes, mais faisons-le. Alors Jésus nous a envoyés dans les nations pour être ses témoins et faire des disciples, vous le savez. Mais pour passer aux actes, nous avons besoin de comprendre finalement comment faire des disciples. J'avais justement établi dans cette première prédication d'introduction au mois de mars, quel est notre rôle de témoin. J'avais expliqué tout ça, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que c'est être témoin aujourd'hui. Mais si passer à l'action, c'est être un véritable témoin qui atteste de la vie de Jésus encore aujourd'hui, mais faire des disciples, ça va encore plus loin. Faire des disciples, ça va demander un investissement plus intentionnel. Je dirais, être témoin, c'est vivre, c'est être, c'est Jésus en nous, c'est le refléter. Mais faire des disciples, ça va plus loin. Lorsqu'on parle de faire des disciples, on utilise le mot « discipula » qui est très en vogue aujourd'hui, et c'est le modèle que Jésus a choisi pour atteindre les nations. Il a investi dans la vie de 12 hommes. En Marc 3,14, nous pouvons lire, il en a choisi 12 à qui il donna aussi le nom d'apôtre pour qu'ils soient avec lui. Jésus a voulu des hommes qui soient avec lui, qui soient tout proches. Il n'a pas juste voulu une bonne équipe qu'il allait voir une fois par semaine le dimanche matin. Mais non, il a voulu prendre avec des hommes, vivre avec, partager, enseigner, partager sa vie avec eux. Amen. Et c'est aussi un modèle qu'on retrouve dans le livre des Actes à plusieurs reprises. On va lire maintenant en acte 15, les versets 35 à 36. Paul et Barnabas restent à Antioche, avec beaucoup d'autres, ils enseignent et annoncent la parole du Seigneur. Après un certain temps, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les croyants dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. Nous verrons comment ils vont. » Verset 41, « Ils passaient par la Syrie et la Cilicie en affermissant les églises. » Alors entre deux, il y a le fameux conflit entre Paul et Barnabas, donc c'est tout un autre sujet que ça me fera très plaisir d'adresser une fois, parce que je crois qu'il y a pas mal de choses à prendre aussi là. Donc Paul finalement va partir avec Silas et non pas Barnabas. Et puis, un petit peu plus loin, au chapitre 16, Paul arrive à Derbé, puis à Lystre. Là, il y a un disciple appelé Timothée. Sa mère est une juive devenue chrétienne, mais son père n'est pas juif. Les chrétiens qui vivent à Lystre et à Iconium disent beaucoup de bien de Timothée. Paul veut l'emmener avec lui. Amen. Alors dans ces quelques versets, j'aimerais relever trois verbes qui vont nous aider à développer une vision du discipulat. Le premier, c'est retourner. Après un certain temps, Paul dit à Barnabas, retournons. Donc nous sommes ici à la veille de son second voyage missionnaire, et puis on découvre cette motivation de Paul, retourner visiter les nouveaux croyants pour voir comment ils vont. Et je vous assure que ce verset-là, moi, il ne m'avait pas tilté. J'avais dû passer dessus, je n'avais pas fait attention. Peut-être que vous, c'est pareil. Mais j'avais un petit peu une image peut-être faussée des apôtres ou même de Paul. Moi, j'avais l'impression qu'il allait toujours, c'était un gars dynamique, il allait toujours droit au but et qu'il ne prenait pas tellement le temps de construire, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression « opération coup de poing ». Vous dites quelque chose, une opération coup de poing, ça ? Il y a des opérations de police, des opérations coup de poing. Donc, on parle d'une opération coup de poing. C'est une opération qui est brève, qui est assez agressive, comme un coup de poing qui est un peu violent, comme ça, tac. Puis moi, j'avais l'impression que c'était un petit peu ça, que pas qu'ils donnaient des coups de poing, comprenez-moi bien. On le saurait. Je pensais que c'était un petit peu l'action des apôtres. Ils avaient des buts clairs. Ils voulaient bien sûr être des témoins. Ils voulaient annoncer la bonne nouvelle. Ils le faisaient partout, tout le temps. Ils foncent, ils agissent. Ils prêchent, ils enseignent, ils avertissent, ils persuadent. Ils accomplissaient des miracles par la puissance du Saint-Esprit. Ils implantaient des églises. Tout ça. Ils faisaient tout ça. Puis après, ils retournaient à la base. Moi, c'était un peu ça. Ils vont, ils font à fond, puis ils reviennent. Et puis, ce verset nous montre autre chose. Leur action, elle va plus loin. Être des témoins et faire des disciples, ça ne s'arrête pas juste à prêcher puis que des gens se convertissent. Il y a quelque chose qui se passe après. Et d'ailleurs, je ne suis pas convaincu que, des fois, nos méthodes d'évangélisation, c'est un peu des évangélisations coup de poing. On va dans une ville, on fait une journée d'évangélisation, puis on repart. Puis on change de lieu. Je ne suis pas sûr que vraiment, même si on a pu prier pour des personnes, je ne suis pas sûr qu'une personne avec une prière va pouvoir changer. Je ne suis pas sûr qu'elle va devenir pouvoir être un disciple. Je ne suis pas sûr que ses problèmes vont se régler comme ça. On a eu Denis Morissette la semaine dernière qui nous disait « Tout le monde vit avec un problème ou a un problème. » Et à un moment donné, il faut travailler ses problèmes. Et y a pas de, voilà, on peut bien sûr prier, c'est juste, il faut prier. Mais ce n'est pas la prière d'une personne qui va... nos problèmes vont s'envoler. La personne, on doit agir là-dedans. Donc, je suis un peu perplexe avec ça. Mais les évangiles nous racontent aussi la parabole du semeur. Le semeur jette ses graines dans différents terrains. Et puis, on dit souvent, il faut semer, et puis le reste, on verra bien. Vous avez déjà entendu ça ? Ce qui compte, c'est de semer. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas responsable du terrain dans lequel les graines tombent, et puis je crois que c'est juste de semer largement. Le cœur qui reçoit la graine, ça ne nous appartient pas, c'est vrai. Mais j'ai envie de dire, mais est-ce que nous ne devrions pas parfois retourner sur nos pas pour nous occuper des jeunes pousses, pour nous occuper des graines qui ont pris dans la bonne terre ? Et moi, je crois que Paul, ici, a pleinement répondu à l'ordre missionnaire de Jésus, parce qu'il a choisi d'investir dans les relations, il a choisi de former, il a choisi de prendre soin. Et lorsqu'on parle de discipulat, le discipulat, c'est conduire une personne à la maturité en investissant, en se déversant dans sa vie, en construisant des relations. C'est joindre le vécu à l'enseignement. Et je peux vous dire que ça, ce n'est pas des opérations coup de poing. Ça prend du temps. Et si on veut passer aux actes, on doit accepter cela. On doit accepter que ça va prendre du temps. On pourrait avoir l'impression que retourner, c'est perdre du temps. On dit, mais Paul, il avait quand même pas mal d'espace, là, il aurait pu aller ailleurs. Il choisit de retourner au même endroit. On dit, mais quand même, fais autre chose. En plus, ça marche plutôt bien, là, ton ministère. Va ailleurs, franchement. Non, il retourne au même endroit. Moi, je trouve ça un peu illogique, quoi. C'est du temps perdu. On aurait tendance à dire, s'ils se sont convertis, maintenant, tout va bien. Ça va suivre, naturellement les choses vont se passer. Le Saint-Esprit va faire son œuvre et puis ça va bien se passer. Considérez que passer aux actes, ce n'est pas dire une petite parole et partir en courant. Passer aux actes, ce n'est pas non plus inviter une fois sa voisine pour un café et puis ensuite plus rien. Ce n'est pas non plus oser parler de Jésus à son voisin, puis après, on n'ose plus le croiser. Ça vous est déjà arrivé, ça? Vous parlez de Jésus, quelqu'un sait que vous êtes chrétien, vous avez pu lui dire, puis après, vous savez tellement pas ce que la personne pense que vous espérez presque que vous ne la recroisez pas. Non, ça doit être que moi. Passer à l'action, c'est prendre le temps de se retourner. C'est investir durablement dans la vie d'une personne. Et juste une personne à la fois. Puis là, c'est un défi. C'est un défi parce que souvent, on a l'impression que c'est « Oh !» Non, une personne à la fois. Mais il y a des besoins, c'est certain qu'il y a des besoins. Parfois, ma femme me reproche, ma chère femme, elle me reproche parfois de marcher trop vite. Et puis ces derniers mois, ça se comprend très bien. Hein. Là, c'est presque plus ma faute, hein, mais bon, ça commence à... Bon, ça va quand elle n'a pas besoin de faire pipi. Et puis, bien sûr, ça m'arrive donc de marcher devant. Et puis de dire à mes enfants, hey, suivez-moi, puis j'y vais d'un bon pas. Voilà, je ne sais pas, ça doit être assez masculin, ça, il paraît. Et puis, l'autre jour, alors qu'on était dans un lieu public, il y avait pas mal de monde, eh ben, j'étais devant, puis je me retourne, et puis mon garçon n'est plus là. Ah. Bon, j'ai fini par le retrouver, il était un petit peu stressé quand même. Hein, mais voilà, j'étais trop devant, j'étais trop loin. Je suis parti, puis je ne me suis pas assez retourné. C'est ce qui arrive si on marche loin devant sans s'occuper des personnes. On doit non seulement se retourner, mais on doit aller les encourager, on doit aller là où elles sont, on doit marcher à leur rythme et les amener plus loin. Donc on ne peut pas juste marcher devant et puis, voilà, moi je continue ma mission. Ils n'ont qu'à suivre. Non, on a besoin de retourner en arrière. Retourner en arrière ne veut pas dire... pas continuer notre marche avec Jésus, d'accord? C'est juste aller accompagner. Hein, okay. Deuxième point, j'ai mis renforcer. C'est mnémotechnique, d'accord? Okay, retourner, renforcer. Mais c'est bien ça qu'il est dit aussi, il passait par la Syrie et la Cilicie en affermissant, mais on pourrait traduire ça par renforcer, par fortifier, par consolider les églises. Alors là, on ne parle pas de bâtiment. Hein. Paul, c'était pas, il n'était pas maçon, d'accord? Il n'était pas en train de réparer les maisons en renforçant les églises. Non, on parle bien de chrétiens, on parle bien des gens et certainement des responsables. Donc passer aux actes, faire des disciples, c'est renforcer, c'est donner du renfort, c'est donner des forces en plus. Et plus jeune, quand je jouais de la musique, je jouais de la trompette dans un ensemble, une harmonie, on appelait comme ça, l'harmonie du bourg de Cossonay, très précisément. Je vous encourage à l'écouter. On a fait un grand CD qui se vendait à 2 francs à la fin du concert. Et je pense qu'il y a encore des stocks. Enfin bon. Et parfois, il nous manquait du monde. Vous savez, dans un registre, parfois, il peut manquer du monde. Il manque un peu des forces. Puis là, on avait parfois quelqu'un qui venait, puis on l'appelait un renfort. Ça, c'est un renfort. Puis qu'est-ce qu'on était content d'avoir un renfort. En fait, c'était un pro qui venait nous aider. Ah, c'était génial. Un renfort. Donc lui, il venait avec ses forces et il venait épauler ce qui était déjà là. Et moi, j'ai mis ceci. Nous ne sommes pas là pour amener ce qu'il n'y a pas, mais pour encourager la croissance de ce qu'il y a déjà et partager notre vécu. Parce que parfois, il y a une crainte à dire, mais si je m'implique dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais être à la hauteur? L'idée, ce n'est pas d'amener des nouvelles choses, c'est d'accompagner. Accompagner la personne là où elle en est. C'est de partager votre vécu, ce que vous connaissez de votre vie. Mais il n'y a pas besoin d'être un expert. Vous venez juste renforcer. Et j'aimerais vous donner quelques conseils. Renforcer, mais comment? La peine ce matin, ma télécommande. Déjà, soyez vous-même. Soyez là et soyez vous-même. Ça, c'est important. Vous voulez prendre quelqu'un à côté de vous, vous voulez investir du temps, soyez vous-même. Ne cherchez pas à être le chrétien spirituel parfait. Puis, alors maintenant, ma mission, c'est de l'enseigner pour qu'elle grandisse. Puis je vais lui dire tout ce que je ne fais pas. Hein. C'est un peu ça. Du coup, on donne un tas de bonnes théories, mais là, de nouveau, on ne le vit pas. Non, soyez vous-même. Ensuite, bien sûr que c'est une très bonne idée de lire la parole ensemble, de prier. Juste lire la parole. Vous savez lire. Lire la parole. Il n'y a pas besoin de faire un commentaire de texte, pas faire une prédication. Prendre juste du temps avec la personne pour lire la parole. Parce qu'en théorie, vous savez comment lire la parole. Vous avez appris à lire la parole. Mais peut-être la personne à côté de vous, elle n'a pas cette bonne habitude. Elle ne sait pas comment lire la parole. Donc, pouvoir le faire avec, ça va beaucoup, beaucoup aider. Et puis si vous avez de la peine à le vivre vous-même, est-ce qu'il y en a qui ont de la peine à lire la parole? Non, je ne vais pas faire lever les mains parce que vous allez être découragés. Non, on a de la peine à lire la parole, franchement. Ce n'est pas simple, je sais. Mais de le vivre avec quelqu'un, ça va même vous encourager, vous. Ça va vous encourager, vraiment. Donc c'est super parce qu'on aide quelqu'un, on prend quelqu'un avec, et puis en même temps, ben, ça nous encourage. Ensuite, vous pouvez renforcer la personne, l'encourager, être là en répondant à ses questions. Et puis là, il faut accepter que vous n'aurez pas toutes les réponses. Mais il y a des fois, quand on chemine avec quelqu'un, ben, il y a des questions qui sont existentielles. Des questions très, très simples, très basiques, mais répondez avec ce que vous connaissez, répondez avec comment vous l'avez vécu. Peut-être c'est une question de juste comment, voilà, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation, comment prendre une bonne décision, comment écouter Dieu, comment vous faites-vous? Et puis vous parlez simplement, vous partagez. Et puis s'il y a des questions trop compliquées, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez parler à d'autres, demander à d'autres. Et puis, comme je l'ai dit, partagez ce que vous vivez, vos défis. Ne donnez pas une image du chrétien qui est parfait. Non, on a des défis, on y fait face. Comment j'y fais face? Quel est le rôle de ma foi dans mon défi? Qu'est-ce que ça change? C'est ça que la personne elle a besoin de voir. Dans ce terme de renforcer, d'affermir, il y a aussi l'idée de rendre plus ferme, de confirmer. J'ai mis passer aux actes, c'est prendre le temps de se retourner pour rendre plus ferme la personne dans sa foi, dans ses choix, pour confirmer ce qu'elle est et ce qu'elle a compris, et donner un peu d'engrais à la jeune pousse par mes encouragements. Amen. On passe un peu au jardin, les jours reviennent, le soleil enfin, hein, un petit peu d'engrais. Ok, donc, retourner. Deuxièmement, renforcer. Il y en a qui suivent, alléluia. Troisièmement, ramener ou emmener. Paul veut emmener avec lui Timothée. Donc j'ai mis un petit R là pour vous aider, d'accord? Ramener. Donc Paul va vouloir embarquer Timothée, il voudrait le mettre dans ses valises. Et puis à partir de là, c'est là que vraiment Paul et Timothée vont développer cette complicité. Paul va devenir comme un mentor, un père spirituel. Il va le ramener avec lui, il va le prendre avec. Il va investir dans sa ville, dans sa vie, de manière plus intensive, de manière plus intentionnelle. Alors là, vous allez peut-être me dire, je vous entends déjà, si passer aux actes, c'est prendre quelqu'un chez soi, c'est pas pour moi. Hein? Surtout en Suisse, c'est pas quelque chose qu'on aime bien. Alors moi, je ne suis pas en train de faire un dogme du discipulat en disant qu'il faut prendre quelqu'un chez soi, d'accord? Mais évidemment que de prendre quelqu'un partout avec soi, ce n'est pas facile, ça, c'est un investissement. Et peut-être que parfois, c'est juste pas possible ou c'est juste pas sage. Je ne sais pas si je vous avais raconté que nous, une fois, on avait accueilli une jeune pendant 6 mois. Et ça a été 6 mois très compliqués. Franchement, c'était 6 mois très compliqués. On avait l'impression de faire quelque chose de juste au début. Et à la fin, on se demandait ce qu'on avait fait de juste. Hein, et puis, il y avait les frictions dans le couple. Et puis, c'était vraiment pas facile. Alors, il y avait un grand décalage d'âge. J'étais une jeune fille qui avait 15 ans, avec des enfants qui avaient moins de 5 ans. C'est sûr que ça faisait aussi... c'était compliqué. Mais, vous voyez, d'avoir quelqu'un tout le temps là, qui est demandeur. Et puis, il y a les enfants et tout. Donc, peut-être, c'est juste pas sage dans une situation ou dans une saison dans laquelle vous êtes. Okay, mais il n'est pas forcément nécessaire d'accueillir la personne chez soi. Il y a d'autres moyens, et je vous donne aussi quelques pistes. Ça peut être inclure la personne dans des moments conviviaux au sein de votre famille pour qu'elle puisse voir ce qu'est la vie de famille. Peut-être c'est quelqu'un qui n'a pas connu la vie de famille, qui ne sait pas qu'aujourd'hui, il y a plus de... Enfin, en tout cas, la moitié des jeunes qui ont grandi dans des familles monoparentales, ils n'ont pas connu leur papa. Il y a tellement de manque à ce niveau-là. Donc si vous avez le privilège d'avoir une famille qui est fonctionnelle et non dysfonctionnelle, de prendre quelqu'un, d'inclure la personne dans des moments conviviaux, elle va goûter quelque chose, elle va voir l'atmosphère, elle va sentir, elle va entendre comment vous vous parlez les uns aux autres, elle va sentir une atmosphère d'amour, normalement. Ok. Mais même, de nouveau, là, on est vrai. Au moins, la personne, elle voit comment on vit. D'accord ? Et puis, on sait bien, on n'est pas parfait. Hein. Donc, parfois, on ça gueule, parfois, on a besoin de... Il faut juste se demander pardon, mais tout ça, elle va le voir. On ne veut pas donner une façade, on veut être vrai. Mais c'est vrai qu'il y a un coût, bien sûr, celui d'accueillir la personne. Et puis c'est important que toute la famille, dans ce cas-là, soit pleinement OK. Vous pouvez aussi inviter la personne dans l'une ou l'autre de vos activités. Peut-être si vous faites du sport, pensez à prendre quelqu'un avec vous. Vous allez peut-être courir deux fois par semaine, ou peut-être vous allez à la salle de gym, ou je ne sais pas, vous faites du vélo, mais prenez quelqu'un avec vous, ne faites pas ça tout seul. Ce n'est pas compliqué, vous continuez à faire la même chose, vous aimez le faire, mais vous prenez quelqu'un avec. Et vous verrez que ça a un impact. Et puis, si c'est possible, prendre la personne avec vous dans un de vos déplacements. Puis ça, c'est super, parce qu'il y a des déplacements que vous devez faire, vous n'avez pas le choix de faire. Puis si la personne est disponible, prenez-la avec. Vous faites une heure de voiture, on partage beaucoup. C'est un petit peu ce que j'ai vécu cette semaine. J'ai fait beaucoup le chauffeur avec Denis, là, qui était là la semaine passée. Mais je vous dis, on a eu des super partages. C'était informel, mais c'était top. Et si j'avais choisi de dire « on prend un rendez-vous maintenant pour parler », on n'aurait jamais eu les discussions qu'on a eues dans une voiture. Donc parfois c'est ça, c'est la spontanéité, c'est ce côté informel qui va bien, mais on a rarement, en fait on doit changer un petit peu pour que ce soit là, qu'on y pense. Parce que souvent on fait nos trucs, on n'a pas beaucoup de temps, et puis que ça devienne quelque chose de naturel. Ça va ? Ok. Donc, passer des paroles aux actes, ce n'est pas forcément, ou tellement, de faire des soirées, c'est pas ça que on va en faire certainement, mais c'est pas faire forcément des soirées dans la rue, à Yverdon, c'est pas participer une fois au service Pâques, puis on se dit « Ah, c'est super, j'ai participé pour les 20 prochaines années ». Non, c'est pas ça. Ça peut commencer par là, c'est juste de le faire, mais notre action doit être continue. Et puis c'est ça que j'aimerais vraiment amener ce matin, ça doit être continu. Ce n'est pas « je fais vite et je reviens m'asseoir sur ma chaise confortable ». Ce n'est pas « je le fais une fois, puis comme ça je suis tranquille pour les 10 prochaines années, puis je ne bouge plus ». C'est une mentalité qui doit changer. Passer de la maintenance à la mission. Aller jusqu'au bout, une personne à la fois. Et je sais que la grande majorité d'entre vous, vous êtes tout à fait capables, apte à faire du discipulat. Et probablement que certains le font déjà. Et c'est super. Et si, alors que je dis que vous êtes capable, que vous êtes apte, il y a des personnes qui disent « Ah non, moi pas », moi je vous encourage aussi à venir une fois vers moi, puis on va en parler. Puis peut-être c'est vous qui avez juste besoin d'être encouragé encore un petit bout. Mais notre désir, c'est que vous puissiez y arriver. Je vous encourage en tout cas à ne pas regarder à vos insécurités, à vos propres peurs. Et c'est sûr que quand on est dans l'action, on est confronté à tout ça. On est confronté à nous-mêmes, en fait. On est confronté à nos craintes, à nos échecs. Et puis notre foi, notre vie spirituelle, elle est là, elle est confrontée à la réalité du terrain. Puis des fois, on se dit, purée, je n'ai pas de réponse. C'est vrai. Mais c'est là qu'on est aussi travaillé le plus. C'est dans l'action que le Saint-Esprit opère. Et je peux vous dire que tout ce qu'il a, en tout cas, de loin pas fini son œuvre, le Saint-Esprit, dans ma vie, mais là où il m'a transformé, c'est lorsque j'ai bougé. Et ce n'était pas assis sur une chaise. Et j'aimerais vraiment vous encourager, parce que parfois on est des chrétiens, puis on attend qu'il nous transforme, puis une fois qu'on sera transformé, on va y aller. Non, allez, et il va vous transformer. Imaginez ce tableau magnifique, si chacun en prend le temps de cheminer avec une personne, d'en prendre soin, de l'encourager, grandir, l'amener à la maturité. Et moi, je vous dis, j'ai plus envie de l'imaginer, j'ai envie de le vivre. Alors, est-ce que vous avez déjà une personne à cœur? Est-ce que vous avez une personne vers qui vous pourriez investir? J'aimerais vraiment vous encourager dans cette semaine à prendre le temps, à prier, à faire ce choix-là. Pas juste dire « ouais, je vais y penser », mais vraiment le faire. Vous savez, je vous avais mis des petits défis la semaine, mais de nouveau, c'est pleinement toute liberté. Hein. C'est juste pour vous encourager un peu. Petit défi de la semaine, prier et prendre contact avec une personne avec qui je désire investir dans la relation. Osez faire un SMS, osez dire « ok, on va se voir, on va prendre un café ». Il n'y a pas besoin de lui dire « j'aimerais beaucoup m'investir dans ta vie ». Faites pas ça, d'accord? Allez prendre un café, soyez naturel, mais nouez cette relation. Soyez vrai, déversez-vous dans la personne. Juste ça. Alors en terminant, alors qu'on désire être concret aussi dans cette série de messages, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler d'un projet pour la Suisse romande qui s'appelle The Turning. Alors vous avez peut-être déjà vu ce flyer, où il a tourné d'ailleurs encore ce matin, The Turning, Mission Suisse romande 2019, équiper chaque chrétien pour partager l'évangile et former ceux qui répondent à devenir des disciples de Jésus. Donc former ceux qui répondent, ça veut dire faire du discipulat. D'accord? Ok. Alors on va regarder une courte vidéo qui va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, puis après je vous dirai encore deux mots là-dessus. On y va. Si ça tout fonctionne bien. Non, évidemment. Ça marchait super tout à l'heure, mais... Okay.
The Turning has been one of the most amazing gifts that God has given the
church.
I believe in the United Kingdom in the last 2 years to see thousands of ordinary Christians making a difference with their friends and their family.
Des chrétiens ordinaires faire la différence.
I'm excited about
famille.
What God is going to do. Whenever God does something new, He has to change our perspective, our understanding. Like He did with Peter when he was praying, and He showed him the sheet from heaven full of food. The Turning is a game changer for the church.
Changer la mentalité
de l'église. But it's also a prophetic statement.
C'est aussi une déclaration
prophétique. God still loves us, and He's with us, and He wants to help us reach the people we love, and that He loves even more.
Hi everyone, just wanted to share a few reflections on the Turning from Falmouth and Penryn.
As a minister, you're out there quite often, I suspect, meeting with people and sharing the faith, but not doing it in the context of your ministry, but actually meeting people on the streets, another thing. But I saw God move too, and it was a very humbling experience to hear people give their that final prayer where they gave their lives to Christ.
And for me, I think it's the knock-on effect on people's lives that has produced something that we've worked with people in the church for 20-odd years, haven't seen that knock-on effect, and yet you've seen it in a week of people turned around, getting on fire, leading other people to Christ, and it becoming a regular habit, which is amazing.
And I was blown away by the response. I have personal stories of people coming to faith on the streets and praying a prayer of response to the gospel, and that's been super encouraging. But most of all for me, it's about the sort of ordinary members of church that you wouldn't pick necessarily as the evangelists. They've been the ones that have had extraordinary stories of what God's been doing on the streets. One lady in our church said that literally it was the best week of her life. So that's high praise. Just go for it, guys, if you're interested.
Hello, dear brothers and sisters in Switzerland. I bring you greetings from Reading in England. We are really excited to be partnering with the Evangelical Alliance to see the Turning come to Switzerland. We're excited about what the mission is going to mean in empowering Christians right across Switzerland in being able to share their faith with their friends and their families. Of course, the gospel of Jesus Christ is the power of God unto salvation for everybody who believe. There is nothing else other than the gospel that will bring people to a saving knowledge of Jesus. And the proclamation of the gospel is what eternity brings. Again, I'm looking forward to meeting many of you. I look forward to seeing you. And I look forward to witnessing to the lost with you. The Lord bless you. Thank you for receiving us. We want to give a big thanks to the Evangelical Alliance for partnering with us. We look forward to what God will do in Switzerland.
Voilà, j'espère que vous avez réussi à peu près à lire. C'était un peu bas. J'aurais dû tout lire alors. Eh bien, vous pouvez toujours revoir cette vidéo sur le site qui est là. Et puis, prendre tranquillement le temps de la lire à la maison. Mais en deux mots, de turning, ça signifie le virage, le retournement. Puis c'est un mouvement qui est né en Angleterre en 2016. Et puis en fait, ils avaient reçu dans la prière d'aller, ils ont fait 4 semaines d'évangélisation. Et il y a 1850 personnes qui ont dit oui à Jésus. Et 70% de ces personnes ont donné leur contact. Et puis il est né là un mouvement, parce que c'est comme s'il y a une faveur de Dieu. Et ils ont revécu ça en France, à Lille, et la même chose s'est produite. Et puis là, il y a le réseau évangélique, des personnes qui ont dit, on veut vivre quelque chose comme ça en Suisse. On croit que c'est un temps particulier. Alors bien sûr, vous allez comprendre pourquoi je crois que c'est pas juste aller dans la rue, puis que c'est pas une action coup de poing, je vais vous le dire. Mais bien sûr, on est toujours un petit peu, c'est un truc qui vient d'ailleurs. C'est vrai, parfois on est un peu comme ça. On peut être un peu les Suisses sceptiques. Et en plus, on est dans le canton de Vaud. Et moi, je fais partie de ça parfois. Mais j'ai envie de vous dire, mais est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'on peut prier pour que ce soit un temps de moisson aussi en Suisse? Parce que souvent, la même chose que je disais pour la chorale, on prie pour des choses, puis quand c'est là, on ne veut pas trop y entrer. Mais je crois qu'il y a quelque chose que Dieu prépare. Et j'ai entendu ce pasteur avec son collègue là qui prépare ça. Et puis, il a dit encore quelque chose d'intéressant que j'aimerais vous partager. Il a dit, on peut être profondément reconnaissant pour l'évangile qui sauve, mais on en a quand même honte. Souvent, on a encore honte de l'évangile. Puis lui, il disait, moi, j'ai dû beaucoup travailler. Donc, il a dit, c'est un chemin de croissance. On doit grandir. Et ce qui fait progresser les gens sur ce chemin, ce n'est pas la loi, les obligations ou l'exigence. Lorsque j'avais 20 ans, on nous disait que les bons chrétiens partageaient l'évangile tous les jours. Le seul effet que cela a eu sur moi, c'est la culpabilité. Je désirais le faire, mais ce mélange de manque de foi, de honte, a fait que je suis resté le même. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là ? Dieu a saisi mon cœur et a changé ma compréhension. L'évangile n'est pas le chemin vers l'amour de Dieu, mais c'est l'amour qui est le chemin vers l'évangile de Dieu. Et si vous voulez comprendre et vivre le turning, ça commence et ça se termine avec l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'on passe autant de temps dans la rencontre, parce que vous allez voir que dans ce temps, il y aura beaucoup de moments ensemble où on va vivre des temps forts avec Dieu. Donc on aime rencontrer Dieu et on désire que chaque membre de l'Église soit rempli de l'amour de Dieu et que cela déborde. Le cœur du turning, c'est l'amour de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut être d'accord avec ça? Et on sait que l'amour fait une différence. L'amour, c'est le moyen de Dieu pour venir nous chercher. Alors, en fait, le réseau évangélique organise une semaine d'évangélisation dans le... Ils ont fait 2 endroits dans la Suisse romande, le sud et le nord. Donc, il y a une... Nous, on est dans la partie sud encore, même si on est le nord du canton. Et donc, il y aura une semaine d'évangélisation où toutes les églises ensemble en Suisse romande vont le faire. Et là, toutes les églises, il y aura un quartier général à Yverdon, et puis on ira tous là-bas pour vivre ça ensemble. Et là où je trouve qu'il y a une réelle différence, c'est que vous allez pouvoir vivre le discipulat. Ils ont les outils qui nous permettent de faire du discipulat. Donc c'est pas juste on va vivre une semaine, puis après il n'y aura plus rien, mais toutes ces personnes qui vont être touchées, on va pouvoir, ils ont tout un système où les gens peuvent donner leur contact et tout est fait tout à fait correctement, il n'y a rien aucune pression, c'est vraiment très très bien. Et vous allez pouvoir apprendre à suivre ces personnes. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de bon, si vous voulez grandir dans ce domaine. Et si on croit qu'il y aura beaucoup de conversions, alors ben, il y aura besoin de personnes qui vont cheminer avec ces nouveaux croyants. Donc c'est vraiment l'occasion rêvée pour passer des paroles aux actes. Et on a eu une petite formation, là, les pasteurs, et il y avait plus de 100 pasteurs réunis à Yverdon, juste il y a 2 semaines. Et franchement, c'était hyper encourageant. On sentait que tout le monde désire, tout le monde a ce désir de passer des paroles aux actes. Alors j'aimerais vraiment vous encourager. Amen. Vous êtes là encore? Ok, donc prenez le temps de noter ces dates, osez mettre une option prioritaire. Il y aura, bien sûr, ça veut dire qu'il y aura des soirées, il y aura peut-être des temps en journée, etc. Donc je sais que tout le monde n'a pas des vacances, mais peut-être que vous aurez l'occasion de prendre une journée de congé. Après, c'est une question aussi de choix, etc. Il n'y a aucune pression, ni culpabilité, ni quoi que ce soit dans ce que je veux dire. Voilà. Mais il y a un choix. Dire, ok, à un moment donné, est-ce que je veux passer à l'action? Est-ce que je veux voir? Est-ce que je veux grandir? Est-ce que je veux entrer dans ce que Dieu a prévu? Alors, je conclue. Paul ne voulait pas simplement accomplir une mission, un but, il voulait les aimer, les amener plus loin. Prendre quelqu'un avec soi, c'est l'emmener sur ce chemin d'amour qui mène au Père. Passons des paroles aux actes, de la maintenance à la mission. Est-ce que je peux juste prendre quelques instants encore pour prier avec vous? Seigneur, parfois, plus ça devient concret, plus ça devient proche, moins on est à l'aise. Et Saint-Esprit, je veux te demander de œuvrer encore dans nos vies. Seigneur, on veut refuser toute culpabilité, s'il y avait quelque chose de culpabilisant dans ce message. Mais Seigneur, on désire simplement être ses témoins et faire des disciples, entrer dans ce que tu nous as demandé, être acteur. On a tellement besoin de toi, viens changer nos mentalités. On a tellement vécu l'Église dans une forme de maintenance pendant tant d'années que c'est tellement difficile de changer aujourd'hui. Seigneur, moi, je n'ai pas forcément les réponses, je n'ai pas la manière. Mais Seigneur, toi, tu sais. Et on veut juste être disponible, se laisser toucher, se laisser transformer, se laisser changer. Le changement fait peur, le changement nous rend inconfortable. Mais on veut t'accueillir, toi, Saint-Esprit, qui fait les choses parfaitement, avec douceur. Seigneur, on veut se réjouir pour ce que tu as prévu pour nos vies, pour cette église, cette communauté ici, et pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ont besoin d'être accompagnées. Et je te prie que nous ayons des relations cette semaine, des personnes avec qui on va pouvoir investir, des personnes que tu déposes ça dans le cœur de plusieurs, tu mets devant notre chemin une personne avec qui on va pouvoir cheminer. Seigneur, enlève toutes les craintes, j'ai pas le temps, je sais pas. Saint-Esprit, enlève cela, c'est pas de toi. Tu nous donnes ce dont on a besoin, jour après jour. Je te bénis, Seigneur, pour une communauté vivante qui t'aime, qui désire encore avancer avec toi. Toute la gloire te revienne, dans le nom de Jésus. Amen.